sommaire de ce journal, le Parlement iranien a approuvé un projet de loi autorisant l'Iran à rejoindre l'Organisation de coopération de Shanghai. Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté un trafiquant d'armes dans la province méridionale de Khuzestan. Et puis, les tirs de roquettes contre une base illégale américaine dans le nord-est de la Syrie, confirmés par le CENTCOM. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le Parlement iranien a approuvé un projet de loi autorisant le pays à rejoindre l'Organisation de coopération de Shanghai. Les députés ont adopté à une écrasante majorité le projet de loi lors d'une séance publique ce dimanche. Pas moins de 205 parlementaires ont donné leur feu vert au projet de loi. Les députés ont déclaré que la Russie et la Chine, en tant que deux membres clés de l'Organisation de coopération de Shanghai, bénéficiaient de niveaux élevés d'échanges et de transactions commerciales, faisant de l'organisation l'un des organismes régionaux les plus importants. Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a décrit l'approbation comme un signe de la détermination de Téhéran à renforcer davantage sa coopération au niveau régional et international, en particulier en Asie. Il a déclaré que le multilatéralisme est la réalité du siècle actuel. L'Organisation de coopération de Shanghai est un organisme eurasien visant à renforcer la coopération politique, économique et sécuritaire entre les États membres. Dans un geste provocateur, la page officielle de la Fédération américaine de football affiche le drapeau national iranien sur les réseaux sociaux sans l'emblème de la République islamique en violation flagrante du code disciplinaire de la FIFA. Le compte Twitter de l'équipe masculine américaine a affiché une bannière de ses matchs de la phase du groupe de la Coupe du Monde avec le drapeau iranien uniquement affiché en vert, blanc et rouge sans le symbole d'Allah. La même chose s'est produite dans les publications sur ses comptes Facebook et Instagram. La Fédération américaine de football a déclaré dans un communiqué qu'elle avait décidé de renoncer au drapeau officiel sur les comptes de médias sociaux pour montrer son prétendu soutien aux femmes en Iran qui luttent pour les droits humains. En effet, selon l'article 13 du code disciplinaire de la FIFA, toute personne qui porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité d'un pays par des propos ou des actes méprisants, discriminatoires ou désobligeants sera sanctionnée d'une suspension d'au moins 10 matchs ou d'une durée déterminée ou avec toute autre mesure disciplinaire appropriée. L'Iran doit affronter les États-Unis mardi dans un match décisif dans le groupe B. Les forces de sécurité iraniennes arrêtent un trafiquant d'armes dans la province méridionale de Khuzestan. La police de la province du Khuzestan, dans le sud-ouest de l'Iran, a déclaré que les services de renseignement et de sécurité avaient arrêté un passeur véhiculant une cargaison de munitions. La police locale a déclaré samedi que les forces de sécurité ont neutralisé un passeur qui transférait des armes vers la capitale provinciale d'Ahvaz. Le passeur a été arrêté lors d'une opération réussie à Ahvaz en coordination avec les autorités judiciaires, ajoute la police. Selon la source, un Colt, 1800 cartouches Kalachnikov, 50 cartouches Colt et 8 chargeurs cachés dans le véhicule du passeur ont été saisis. La sécurité des personnes est une ligne rouge pour la police, ont souligné les autorités, promettant une réponse décisive à quiconque qui chercherait à perturber la sécurité nationale. Plus tôt ce mois-ci, l'Organisation du renseignement du corps des gardiens de la révolution islamique a identifié et démantelé une cellule terroriste soutenue par un pays européen, toujours dans la ville d'Ahvaz. Selon une source du renseignement bien informée, les aveux des membres détenus de cette cellule de sabotage avaient révélé leur plan pour assassiner un certain nombre de personnes et de personnalités dans la province arabophone iranienne de Khuzestan. L'armée américaine a déclaré que l'une de ses bases, considérée comme illégale par Damas, dans le nord-est de la Syrie, avait été la cible d'une attaque à la roquette. La troisième de ce type, en 9 jours, a confirmé le commandement militaire américain au Moyen-Orient, CENTCOM. 2 roquettes auraient visé une base de patrouille à Al-Shadadi vendredi soir. Rien n'a filtré pour le moment sur les origines des roquettes tirées, mais selon les dernières informations, elles n'ont causé ni blessés ni dommages à la base. Des centaines de soldats américains sont toujours en Syrie dans le cadre de ce que les États-Unis appellent la lutte contre les restes du groupe terroriste Daesh. Les troupes américaines dans la région soutiennent les miliciens armés kurdes. Il y a plus d'une semaine, des roquettes ont visé la base du village vert américain qui se trouve dans le plus grand champ pétrolifère de Syrie, Al-Omar. Selon l'armée américaine, une frappe de drone turc cette semaine a tué 2 miliciens kurdes soutenus par Washington et posé un risque pour les troupes américaines dans le nord-est de la Syrie. Enfin, un Israélien succombé à ses blessures subies lors des rares attentats à la bombe qui ont frappé Al-Quds occupée plus tôt cette semaine. Ce décès porte à 2 le nombre d'Israéliens tués dans les attentats qui ont également fait 13 autres blessés. Mercredi, 2 explosions ont frappé des arrêts de bus dans la ville qui, selon les forces de sécurité, ont explosé à distance. Aucun groupe n'a jusqu'à présent revendiqué les attentats. Les attentats à la bombe sont survenus au milieu d'un pic de violence qui a coûté la vie à 6 Israéliens et 14 Palestiniens ce mois-ci dans toute la Cisjordanie occupée. Israël a intensifié sa répression dans les territoires occupés ces derniers mois sous différents prétextes. Plus de 120 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie depuis le début de cette année, ce qui a amené le ministère palestinien des Affaires étrangères à demander à la Cour pénale internationale d'enquêter sur les crimes israéliens dans les territoires occupés. Le ministère a à maintes reprises condamné les agressions meurtrières continues contre les Palestiniens. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Trudeau se dit serein d'avoir invoqué les mesures d'urgence. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a fermement défendu vendredi 25 novembre la décision de son gouvernement d'invoquer la loi sur l'adoption de mesures d'urgence pour mettre fin aux manifestations qui ont paralysé la capitale. Trudeau a témoigné vendredi devant la commission d'urgence de l'ordre public pour conclure 6 semaines d'audience sur les pouvoirs, invoqués en février, pour mettre fin à des semaines de manifestations menées par des camionneurs qui ont paralysé Ottawa et perturbé le commerce. Le convoi de la liberté de camionneurs est arrivé à Ottawa le 29 janvier des 4 coins du pays pour protester contre les mesures de santé publique, y compris la vaccination obligatoire. Ils ont fermé la capitale et bloqué certains passages frontaliers pendant des semaines en janvier et février. Justin Trudeau a invoqué la loi autorisant la police et, en théorie, l'armée du pays à réprimer les manifestants, notamment en saisissant des camions, en fermant des comptes bancaires et en suspendant les assurances. La loi sur les mesures d'urgence stipule qu'une urgence nationale est une situation urgente et critique de nature temporaire, qui ne peut être traitée efficacement en vertu d'aucune autre loi du Canada, a-t-il dit. Trudeau a déclaré que l'utilisation des pouvoirs d'urgence était inévitable, affirmant qu'il n'était pas possible de négocier avec les manifestants. Il a affirmé que les manifestants avaient enfoncé des véhicules dans des voitures de police et utilisé des enfants comme boucliers. Il a déclaré que la police craignait de stocker des armes, tandis que l'Agence d'espionnage du Canada a mis en garde contre la présence de personnes faisant la promotion de l'extrémisme violent à motivation idéologique. Nous avons vu les choses s'aggraver. Nous devions faire quelque chose pour assurer la sécurité des Canadiens, a-t-il déclaré à la Commission. Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, SCRS, David Vinon, a témoigné qu'il ne croyait pas que la manifestation correspondait à la définition d'une menace à la sécurité nationale en vertu de la loi sur le SCRS. Au cours de son intervention, l'avocate de la Commission a également laissé entendre à Trudeau que les manifestations ne constituaient pas une menace pour la sécurité du Canada, telle que définie dans la loi sur le SCRS. Celui-ci a réagi en déclarant que ces mots sont inclus dans la loi sur le SCRS pour donner au SCRS le pouvoir de prendre des mesures contre un individu, un groupe ou un complot en particulier. Les organisateurs du convoi, cependant, ont déclaré que leur action était une réaction légitime contre les politiques perverses du gouvernement. « Nous n'étions pas là pour perturber les habitants de la ville, nous étions là pour être entendus », a déclaré la camionneuse Brigitte Bolton.